Décryptage. Aurélien Devernois.
Luttons pour nos droits fondamentaux, nos corps nous appartiennent. Voilà quelques slogans scandés en Alabama par des femmes opposées à la loi limitant drastiquement le droit à l'avortement promulguée dans cet état du sud des États-Unis, le deuxième texte de ce type voté en moins d'une semaine dans le pays. Le sujet alimente depuis longtemps le débat public américain, mais les opposants à l'interruption volontaire de grossesse semblent gagner du terrain depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de son vice-président ultra-conservateur Mike Pence. Le droit à l'avortement est-il pour autant menacée aux États-Unis, la stratégie de la Maison-Blanche à ce sujet ne pourrait-elle pas se retourner contre elle? Des questions et plus encore que nous nous posons ce soir dans Décryptage. Et pour nous aider à y voir plus clair, Marie-Cécile Nave, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse associée et responsable de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et vous êtes également l'auteur de Trump, la revanche de l'homme blanc aux éditions textuelles. Alors justement, ces deux lois passées en Alabama et en Géorgie ont à chaque fois été votées par des assemblées très largement composées d'hommes blancs. Cela fait partie de cette revanche que vous évoquez dans votre ouvrage?
Oui, on peut le voir comme ça. Il y a une double volonté de confirmer, de conforter ou de revenir à une société patriarcale où les hommes contrôleraient le corps des femmes, et puis qui procède à la fois d'une dimension religieuse, mais pas seulement, parce que les volontés patriarcales ne sont pas présentes que dans la religion. C'est une culture qui est beaucoup plus répandue que chez les évangélistes, par exemple, et qui procède également d'une peur de la transformation démographique de l'Amérique, à savoir que d'ici 25 ans, les États-Unis ne seront plus majoritairement composés de populations blanches d'origine européenne. Ça, c'est une évolution démographique inéluctable, mais une petite partie de la population, plutôt militante, il faut le dire, eh bien, souhaite conjurer cette réalité. Et donc, il y a l'idée derrière ces lois extrêmement restrictives ou qui veulent être restrictives sur l'avortement, de préserver une Amérique blanche et d'empêcher les femmes blanches d'avorter, comme si ça pouvait finalement mettre un terme au métissage, à l'immigration, au fait que l'immigration continue de sa dynamique, et ce alors qu'aujourd'hui plus d'un enfant sur deux qui naît n'est pas un enfant blanc d'origine européenne.
Alors, l'avortement aux États-Unis a été légalisé au niveau fédéral en 1973, ça fait 46 ans, c'était un an avant la France. Ça a été le fruit d'une longue bataille politique. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les circonstances de cette décision? Ça s'appelait, c'était une décision de la Cour suprême, hein, d'ailleurs, à l'époque, c'était l'arrêt Roe versus Wade.
Oui, alors, évidemment, ça s'inscrit dans le contexte des années 70, donc c'est le fruit d'un militantisme féministe extrêmement fort qui a porté ses fruits et qui a très vite été contesté d'ailleurs par les conservateurs. Ça date pas d'aujourd'hui. Cet arrêt, il s'appuie sur une interprétation en particulier du 14e amendement de la Constitution qui parle de droit à l'intimité, de right to privacy, qui laisse une certaine latitude aux États fédérés dans l'accès à l'avortement, à condition que il n'impose pas aux femmes ce qu'on appelle un fardeau excessif, c'est-à-dire que objectivement, les conditions d'accès à l'avortement ne soient pas aussi tellement drastiques que finalement les femmes n'y aient pas accès. Donc il y a une interprétation, il y a une subjectivité sur laquelle les États fédérés ultra-conservateurs ou conservateurs jouent aujourd'hui. Mais ce qui change peut-être ces derniers mois, c'est que les tentatives de restreindre l'accès à l'avortement qui ont commencé dans les années Reagan, qui se sont intensifiées dans les années George Bush fils, et qui ont continué d'ailleurs dans certains États sous Obama, jusqu'ici tendaient à rendre plus difficile l'accès à certaines cliniques, ou demander aux médecins pratiquant des avortements dans des cliniques qu'ils soient affiliés à un hôpital central, ce qui rendait effectivement pour nombre d'entre eux, les choses plus difficiles, voilà. Ouais. Certaines cliniques ont fermé. Il y a beaucoup d'États dans lesquels il n'y a presque plus de cliniques. Les femmes doivent faire des centaines de kilomètres pour trouver une clinique qui pratique des avortements. Aujourd'hui, on est dans des textes de loi qui s'attaquent directement au terme de l'arrêt même dans Roe versus Wade, c'est-à-dire remise en cause des 24 semaines d'aménorrhée après lesquelles, jusqu'auxquelles on a le droit d'avorter, c'est-à-dire la viabilité du fœtus. Là, on est dans 8-6 semaines. Donc, on est dans une attaque terme à terme, mot pour mot, contre le texte initial.
Parce
donc,
que
ça
là,
va plus
finalement,
loin.
Ce qui se passe, c'est que, par exemple, des femmes qui ne se savent pas encore enceintes se retrouvent, quand elles le constatent, dans l'impossibilité d'avorter, puisqu'elles auront d'ores et déjà dépassé le délai fixé par la loi.
Oui, et tout ceci est délibéré, bien évidemment. Tout ceci est fait exprès, et les militants, les élus qui votent ce type de loi savent très bien, pour beaucoup d'entre eux, ce ne sont pas des idiots, ce sont beaucoup de fanatiques, mais ce ne sont pas des idiots, ils savent très bien qu'interdire l'avortement n'a jamais fait baisser le taux d'avortement. Il rend juste la vie des femmes plus difficile, et dans les pays du Sud, pas aux États-Unis, mais dans les pays du Sud, ça augmente le risque de mort, et le taux d'avortement clandestin. Et la vie des femmes est rendue plus compliquée, c'est délibéré, c'est une manière de culpabiliser, de punir les femmes. Mais là où c'est peut-être contre-productif, c'est que, en parlant de, même en cas de viol, même en cas d'inceste, dans le contexte de MeToo où on parle, où la parole sur les viols, sur les violences domestiques, sur les violences faites aux femmes s'est libérée et moins, et plus visibilisée et moins tabou qu'avant, ça risque de galvaniser aussi les pro-choice qui peuvent se mobiliser peut-être davantage pour avoir un militantisme plus efficace.
Alors, pro-choice, c'est pro-choix, c'est-à-dire les militants qui militent en faveur du droit à l'avortement. Alors, vous l'expliquiez, il y a finalement le mouvement anti-avortement marche sur deux jambes. Il y a un mouvement civil porté par des associations, et puis il y a aussi des représentants politiques qui s'engagent sur ce sujet. Et justement, le mouvement bénéficie d'un soutien à la Maison-Blanche. C'est celui, non pas, on va dire, affiché de Donald Trump, mais de son vice-président, Mike Pence.
Alors, Donald Trump, si, quand même, par visée électoraliste, parce qu'il a besoin en particulier de l'électorat évangéliste, qui effectivement se reconnaît plus dans Mike Pence, qui lui-même, quand il était élu, avait tenté de faire passer ce type de loi. Plus de 80% des évangélistes ont voté pour Trump en 2016, et comme visiblement sa stratégie de campagne pour 2020, c'est de miser sur un électorat ultra-conservateur et non pas d'élargir sa base électorale, il est finalement un peu contraint de donner toujours des gages à cette frange ultra-conservatrice. Et puis il a eu des propos aussi très excessifs, même mensongers sur les avortements tardifs. Et il a restreint les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive en augmentant par exemple la liberté de conscience des personnes des personnels de santé qui peuvent refuser certains soins. Alors ça s'adresse plus ça vise plus les transgenres pour les traitements hormonaux par exemple, mais ça vise aussi les femmes dans la question de l'accès à la contraception, pas que l'avortement, l'accès à la contraception et tout ce qui relève de la santé sexuelle qui est au-delà d'ailleurs du contrôle des naissances.
Sauf que Donald Trump, il a malgré tout eu des positions relativement fluctuantes sur ce sujet. Je vous propose d'écouter ce qu'il déclarait en 1999 lors d'une émission télévisée. Et la question qui lui était posée, c'était justement sa position sur l'avortement s'il devenait président des États-Unis.
Je suis très pro-choix, même si je hais le concept d'avortement. Je le hais, je hais tout ce que cela représente et je grince des dents quand on débat de ce sujet. Mais je crois malgré tout à la liberté de choix.
Alors, c'est dire finalement un peu tout et son contraire dans la même phrase. Enfin, en gros, il dit « je suis pour le droit à l'avortement ou le choix de pouvoir avorter, mais en mon fort intérieur, je suis contre cette pratique ». Est-ce que c'est une position qu'il tient toujours aujourd'hui, ou est-ce que, en effet, comme vous le disiez, il a, on va dire, affirmé son discours hostile à l'avortement?
Depuis qu'il a été élu, c'était un petit peu plus flou pendant la campagne, effectivement. Depuis qu'il a été élu, le discours est très clair et les actes sont clairs. C'est pas que du discours, ce sont des politiques très très concrètes. Aujourd'hui, il a des mots très durs sur l'accès à l'avortement. Il a des mots très durs sur les femmes en général. Et une autre mesure qu'il a prise depuis qu'il a été élu, c'est le fait de pouvoir pouvoir permettre à toutes les entreprises, et pas que aux entreprises qui travaillent dans le secteur religieux, comme c'était le cas sous Obama, qui avait dû céder sur ce point, toutes les entreprises qui sont sujettes à l'Obamacare sont libres d'inclure dans l'assurance santé les questions de santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est pas, encore une fois, que le contrôle des naissances, c'est aussi des problèmes gynécologiques,
c'est une question de santé d'une manière large, générale. En fait, de l'accès des femmes
à la santé.
Et alors, ce qui est étonnant parallèlement à ça, c'est que dans le camp ultra-conservateur, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la stratégie mise en place par ces législateurs, que ce soit en Alabama et en Géorgie. Je vous propose d'écouter notamment Pat Robertson, c'est l'une des figures du mouvement évangéliste américain.
Je pense que l'Alabama est allé trop loin. Ils ont passé une loi qui infligerait 99 ans de prison à un médecin pratiquant l'avortement et sans exception pour le viol ou l'inceste. Ils veulent remettre en cause la loi fédérale, mais de mon point de vue, ce n'est pas le type de dossier que l'on veut amener devant la Cour suprême, car nous allons perdre.
Alors c'est un point de vue intéressant parce que sur le fond, Pat Robertson est complètement opposé au droit à l'avortement, mais là, le point de vue qu'il développe, c'est que la manière dont ce dossier va probablement arriver à la Cour suprême, parce que finalement c'est l'objectif de ces lois qui sont passées, c'est qu'elles soient contestées et que finalement elles aillent jusqu'au recours juridique maximal qui est la Cour suprême américaine. Et de son point de vue, en fait, c'est trop extrême pour que ça puisse passer devant les juges de la Cour suprême, devant les sages américains.
Alors c'est intéressant effectivement de rappeler que tant que cette loi est contestée devant les tribunaux, elle n'entre pas en vigueur. Et beaucoup de lois qui sont écrites dans les mêmes termes, dans des termes proches, n'ont jamais été appliquées, même quasi-totalité, même la totalité, parce qu'elles ont été contestées devant les tribunaux. Et finalement, ça va jusqu'aux cours d'appel des États et ce n'est pas appliqué. Encore faut-il que la Cour suprême accepte de se saisir de ce cas. Elle n'est pas obligée de se saisir de tous les cas qu'on lui présente. Et effectivement, dans la presse américaine, les juristes qui s'expriment disent qu'il y a peu de chances qu'en l'état actuel des choses, la Cour suprême examine cette loi parce que effectivement, elle est extrêmement, elle va très loin, elle attaque l'arrêt versus Wade dans ces termes même, et que vu l'état de l'opinion publique, qui est très majoritairement en faveur de l'accès à l'avortement, vu le fait que la Cour suprême est censée garantir l'intérêt général et parler à tous les citoyens et pas obéir à une idéologie, en tout cas, faut pas que ce soit trop marqué, le président John Roberts pourrait être tenté de refuser que cette loi soit examinée par la Cour suprême. Et par ailleurs, c'est une loi qui peut être effectivement contre-productive, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, parce que elle peut galvaniser l'opposition. Et puis, c'est aussi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie qui sont dépensées par les militants qui s'appellent pro-life, mais que certains comme moi préfèrent appeler anti-choice, parce que ça, c'est du travail de militants, c'est de l'argent qui est dépensé par les lobbies comme Federalist Society, par exemple, ce lobby ultra-conservateur qui a donné une liste de noms à Donald Trump pour les choix de nouveaux juges à la Cour suprême,
et qui s'en est largement inspiré.
Et qui s'en sont inspirés. Et évidemment, le fait qu'il y ait un Kavanaugh et surtout un Neil Gorsuch maintenant à la Cour suprême, avec une Cour suprême qui est...
Mais ce sont les deux nouveaux juges
nommés par Donald Trump, qui lui ont été soufflés par des lobbies ultra-conservateurs, parce que lui-même ne vient pas du sérail politique, il n'avait pas forcément des noms en tête. Ça galvanise les militants anti-avortement, parce que se disent on a une Cour vraiment qui est majoritairement ultra-conservatrice, mais peut-être que si la Cour suprême, et c'est probable, tente dans les mois, dans les années qui viennent, d'affaiblir l'accès à l'avortement, elle le fera pas nécessairement en acceptant d'examiner cette loi de l'Alabama. Ça peut être continuer à valider des lois qui réduisent le nombre de cliniques, etc. Et encore, c'est pas sûr, puisqu'il y a une loi comme ça qui a été retoquée récemment devant la Cour suprême.
Mais alors, quand on connaît un petit peu Donald Trump, que l'on voit comment il fonctionne, est-ce qu'on peut pas se dire que il va, s'il a décidé de pousser sur ce sujet au maximum, il ne va pas faire pression sur les juges qu'il a nommés à la Cour suprême. Alors, je sais que c'est pas en accord avec la tradition politique américaine, mais Donald Trump, dans sa manière de se créer des obligés, est-ce qu'il pourrait pas être tenté de dire, écoutez, vous deux, je vous ai nommé juge, et j'aimerais bien maintenant que vous poussiez les sujets qui sont en ma faveur.
Il va peut-être le dire, il va peut-être le tweeter, mais c'est pas ça qui fera prendre telle ou telle décision par la Cour suprême. Ils n'ont pas besoin de Donald Trump. Ils regardent aussi l'état de l'opinion. Ils veulent veiller quand même à l'image de cette institution. Eux, ils survivront, si je puis dire, à Donald Trump. Ils sont nommés à vie. Donald Trump, il est là que peut-être encore pour un an, peut-être cinq ans. C'est très possible, hein, d'ailleurs, il faut le dire. Donc, c'est pas une pression qui peut les faire prendre telle ou telle décision. En revanche, ce que fait Trump, en fait, il alimente une dynamique, il encourage un certain nombre d'États conservateurs, parfois il les galvanise pour que eux multiplient ce type de loi, et à force qu'il y ait ce type de loi, ça peut effectivement pousser davantage la Cour suprême à envisager d'étudier cette question.
Alors face à ça, il y a quand même une contestation hein, qui est en train de monter aux États-Unis. Contestation de personnalités publiques, il y a des stars d'Hollywood qui se sont notamment positionnées sur ce sujet, qui ont menacé de ne plus aller tourner en Géorgie, par exemple, mm-hmm. qui est un État où il y a beaucoup de tournages cinématographiques, de séries télé, etc. Et puis il y a également la classe politique. Je vous propose d'écouter la sénatrice de l'État de New York, Kirsten Gillibrand, qui est également candidate à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020.
C'est un droit fondamental pour toutes les femmes de ce pays, et vous êtes en train de leur dire que des hommes élus dans des parlements locaux à travers tout le pays peuvent décider quand elles doivent avoir des enfants, combien et à quel type de soins elles peuvent avoir accès. Mais nous sommes en train de revenir des décennies en arrière. L'an dernier, des femmes se sont mobilisées pour faire changer la majorité à la Chambre des représentants. C'est juste un début. Si le président veut la guerre, il va l'avoir.
He's got it. Vous voulez la guerre, vous voulez le combat, vous allez l'avoir. Cette pression sur le droit à l'avortement, ça peut se retourner contre Donald Trump ?
Alors, ce qu'on observe depuis son élection, c'est une mobilisation très importante des femmes dans la société américaine, une sorte de féminisme un peu renouvelé avec des nouvelles générations, avec des sujets qui sont assez vastes, évidemment qui parlent des droits des femmes et qui s'intéressent aussi aux questions d'environnement, de lutte contre les inégalités, et qui d'un côté portent leurs fruits avec, on le voit, le nouveau visage de la Chambre des représentants, et d'un autre côté qui se heurtent quand même au mur du pouvoir, et on l'a vu avec les mobilisations très fortes qu'il y a eu contre la nomination de Brett Kavanaugh, et ça n'a pas fonctionné. Néanmoins, on peut quand même penser que ce sujet peut prendre une place un peu plus importante, un peu plus sur le haut de la pile de l'agenda pour les prochaines élections présidentielles l'année prochaine. Non pas que ce soit un thème qui soit au cœur de la campagne, mais peut-être que ça peut être un thème qui est plus important, qui a un plus grand écho dans cette campagne, même si c'est potentiellement un piège pour les démocrates, parce que ils n'ont pas forcément un avis complètement unanime sur l'accès à l'avortement, et puis surtout, ils doivent séduire un électorat qui est vaste, qui va jusqu'au centre, et donc avoir des propos qui seraient complètement opposés ou à ceux de Trump peut aussi les desservir, parce que lui sera assez malin pour les qualifier d'extrémistes dans l'autre sens.
Oui, il faut finalement pour eux éviter de faire trop pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Et c'est sur cela que nous allons nous quitter, parce que l'émission est déjà finie. C'est passé très vite. Marie-Cécile Nave, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée et responsable de l'Observatoire Genre et Politique à l'IRIS, également auteur de Trump, la revanche de l'homme blanc. Merci également à Éléonore Krenik qui a préparé cette émission, et Claude Battista à la réalisation.
Merci.